Il est 22h ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez.
Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans le journal en français facile. Pour commencer, les titres de l'actualité.
Philippe Le Caplain.
La France change de Premier ministre, Jean Castex remplace Édouard Philippe à la tête du gouvernement et doit donner un nouveau souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron. Une enquête judiciaire sur la gestion de la crise du Covid-19 ouverte à la Cour de justice de la République contre Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn. La Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu prononcé fin 2018 pour sept Rwandais. Ses proches de Paul Kagame avaient été mis en examen dans l'enquête sur l'attentat considéré comme déclencheur du génocide.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
La France est désormais gouvernée par Jean Castex. C'est lui qui a choisi le président de la République comme Premier ministre en remplacement d'Édouard Philippe. La passation de pouvoir a eu lieu tout à l'heure, Julien Chavanne.
Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau.
La fin de trois années intenses pour Édouard Philippe, l'ex-premier ministre rend les clés de Matignon après 1145 jours à la tête du gouvernement.
Notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d'autres crises, a besoin d'un esprit ouvert et d'une main ferme. Et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme. Alors je suis un peu ému en vous disant cela. Soyez bon. Comme on dit chez moi, bon vent.
Ému, Édouard Philippe est longuement ovationné par ses équipes avant que Jean Castex ne lui rende à son tour hommage.
Les trois années que vous avez passées ici, à Matignon, resteront sans nul doute marquées dans l'histoire de notre pays.
La réalité rattrape vite le nouvel hôte de Matignon, le Premier ministre. Jean Castex ne s'attend pas à un état de grâce.
La crise sanitaire n'est malheureusement pas terminée. La crise économique et sociale, elle est déjà là.
Édouard Philippe a déjà la tête ailleurs, au Havre, où il reprendra son fauteuil de maire dimanche. Il quitte la cour de Matignon à pied, sans se retourner.
Emmanuel Macron qui a confié au désormais ex-premier ministre une mission politique pour conforter la majorité en vue de la présidentielle de 2022. Jean Castex, veut lui plus que jamais réunir la nation, dit-il, face à la crise. Âgé de 55 ans, cet énarque a été secrétaire général adjoint de l'Élysée lors de la présidence de Nicolas Sarkozy et a travaillé dans des cabinets ministériels de gouvernement de droite. Il est également un élu local, maire de Prades, ville des Pyrénées-Orientales, dont il est le maire depuis 2008. Les choses sont allées très vite ce matin quand l'Élysée a annoncé la démission d'Édouard Philippe avant de dévoiler à peine 3 heures plus tard le nom de son successeur. Le troisième tour des municipales, comme on appelle l'élection des maires, Christian Estrosi réélu à Nice, Anne Hidalgo à Paris, Martine Aubry à Lille, contre laquelle les oppositions écologistes et République en marche ont déposé des recours devant le tribunal administratif. Le député RN Louis Alliot a été élu maire de Perpignan par le conseil municipal après sa victoire face au maire sortant LR dans cette ville de 120 000 habitants, première grosse prise municipale du parti d'extrême droite depuis Toulon en 1995. Les syndicats d'Air France réagissent vivement aux premières annonces officielles concernant la suppression de 6 560 postes sur environ 41 000, soit 16% des effectifs de la compagnie. Air France a également décidé de tailler dans son réseau court-courrier et dans la compagnie régionale Hop. La direction a annoncé une réduction de 40% des effectifs actuels, soit 1022 suppressions d'emplois sur 2400. Cela concerne toutes les catégories de personnel et des sites de maintenance de Lille et de Morlaix. Une enquête judiciaire sur la gestion de la crise du Covid-19 ouverte par la Cour de justice de la République contre les ex-ministres Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn. C'est ce qu'annonce le procureur général près la Cour de cassation François Molins. Et puis pour la première fois depuis le déclenchement de l'épidémie en Chine en décembre, l'Amérique latine dépasse l'Europe en nombre de cas avec plus de 2 700 000 malades, même si le vieux continent reste la région du monde la plus endeuillée avec près de 200 000 morts. Cuba rouvre ses plages au tourisme international car l'île affirme maîtriser désormais cette pandémie du Covid-19 avec un peu plus de 2300 contaminations et 86 décès au total. Secteur crucial pour l'économie du pays, le tourisme est à l'arrêt depuis 3 mois et pour attirer les touristes étrangers sur ces petites îles paradisiaques en toute sécurité, eh bien, Cuba lance une grande opération séduction, Domiti Piron.
des eaux turquoises, des plages de sable blanc et des hôtels en toute sécurité. C'est le message que martèle le gouvernement cubain qui veut relancer le tourisme au plus vite. Masvidal, chargé de la campagne pour la relance, insiste, Cuba est un pays sûr.
Les logements dans les hôtels, les services, les lobbies, les activités, les excursions à la plage, dans la nature, tout cela sera personnalisé et totalement sûr.
Cuba avait longuement hésité à fermer ses frontières au tourisme et veut se placer en première ligne pour la réouverture afin d'éviter la concurrence de la Jamaïque et de la République dominicaine qui ont déjà repris. Mais c'est une réouverture partielle que Cuba entame, sachant que la capitale est toujours confinée. Seules les petites îles, les Cayos autour de Cuba sont accessibles aux étrangers qui viennent par charter et seront tous testés à leur arrivée. Des médecins sont également présents dans chaque hôtel, de quoi rassurer. Mais pour les voyageurs, cela suppose donc aucun contact avec la population locale. Offrir des vacances en toute tranquillité mais loin des Cubains, c'est donc le choix du gouvernement pour cette réouverture qui attirera sans doute des touristes russes ou canadiens, mais aucun opérateur européen n'a souhaité proposer cette destination. Trop cher pour ce que c'est, selon une agence de voyage française pour qui la reprise des circuits cubains ne se fera sans doute pas avant le mois de décembre. Dimitri Piron, La Havane. RFI.
Le procès des meurtriers présumés de Jamal Khashoggi s'est ouvert devant une cour d'assises turque en l'absence des 20 accusés saoudiens. Le journaliste saoudien avait été assassiné début octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul. L'affaire avait provoqué un scandale international et une crise diplomatique entre Ankara et Riyad. Anand Loer.
C'est avec le récit de Hatice Cengiz, fiancée de Jamal Khashoggi et unique plaignante, que s'est ouvert le procès des meurtriers présumés du journaliste saoudien. La jeune femme est la dernière personne à avoir vu Jamal Khashoggi vivant avant son entrée dans le consulat d'Arabie Saoudite le 2 octobre 2018. À la sortie de l'audience, elle paraissait à la fois émue et confiante.
Ce qui s'est passé reste pour moi une épreuve à la fois morale et psychologique, mais j'ai confiance en la justice turque. Notre lutte pour la justice se poursuivra non seulement en Turquie, mais aussi partout dans le monde.
Cette première audience aura permis au tribunal d'entendre une partie des 54 témoins de cette affaire. Le banc des accusés, lui, est resté vide. L'Arabie Saoudite, où un procès à huis clos s'est conclu en décembre, a refusé d'extrader ses 20 ressortissants accusés par la Turquie d'avoir planifié ou commis le meurtre. Agnès Kalama, rapporteure des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, assistait à l'audience.
Le procès saoudien n'était qu'une parodie de justice. Ici, nous avons un espace où les victimes sont entendues, où les témoins parlent sous serment. C'est important pour la vérité, car d'autres informations vont émerger. Oui, le procès en Turquie a de nombreuses limites, mais c'est ce que nous pouvons avoir de mieux pour l'instant.
La prochaine audience du procès est fixée au 24 novembre, à Nandlore, Istanbul, RFI.
Toujours en Turquie, des peines de prison infligées à deux anciens dirigeants d'Amnesty International, accusés d'activités terroristes. Taner Kilic et Hidi Lezer ont été condamnés, tandis que sept autres militants, dont un Allemand et un Suédois, ont été acquittés. Cette affaire, surnommée le procès des 11 d'Istanbul par Amnesty, est devenue l'un des symboles de la répression qui s'est abattue sur la société civile après la tentative de coup d'État de juillet 2016. À Hong Kong, la première inculpation d'un manifestant en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité votée par le Parlement chinois. Ce texte fait craindre une régression des libertés garanties jusqu'ici par la Constitution hongkongaise. Il prévoit la mise en place d'un bureau de sécurité nationale dirigé par un fonctionnaire chinois, Zeneng Yangqiong. Les explications de Vincent Souriau.
Il se fait connaître en 2011. À l'époque, il dirige le parti communiste de la province du Guangdong, tout près de Hong Kong. Et lorsqu'une révolte villageoise éclate dans une petite bourgade de pêcheurs, il emploie la manière forte. La police assiège la commune, coupe les routes d'approvisionnement, les meneurs de la contestation sont arrêtés et l'un d'entre eux meurt en détention. De cet épisode, Zeng Yangqiong ne dira qu'une seule chose. Les habitants qui se sont soulevés contre les autorités chinoises étaient manipulés par la presse étrangère. Et les poules auront des dents avant qu'on ne puisse faire confiance à ces publications qui incitent nos populations à l'insurrection. Aujourd'hui, il arrive à Hong Kong comme chef de la sécurité pour faire appliquer une loi qui lui donne tous les pouvoirs, sans véritable garde-fou et sans que le gouvernement local n'ait son mot à dire. Il aura toute latitude pour faire appliquer ce texte de la manière la plus ferme, en cas, par exemple, de nouvelles manifestations pro-démocratie, comme celles que l'on a connues à Hong Kong l'an dernier.
Et puis, sachez que la Bourse de Paris a perdu 0,84% aujourd'hui à 5007,14. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 22h10 ici à Paris.